Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, quel plaisir, hein. On n'était pas avec vous la semaine dernière, on était un petit week-end de repos avec le week-end de Pâques, mais cette fois-ci on est en pleine forme hein, pour aborder le dernier trimestre et la grande ligne droite donc, de nos émissions qui nous emmènera jusqu'au 15 juillet, oui, jusqu'à la fin donc, de l'Euro de foot. On sera en configuration Euro, même si on aura un autre petit week-end de repos pour donc, le week-end de Pentecôte. On va donc ce soir avoir beaucoup de choses à vous raconter, on retrouvera Stéphane Desenclos pour le point foot entre 20h05 et 20h25 pour le point foot donc de la quinzaine. Le foot et l'olympisme feront bon ménage puisqu'on reviendra sur la cérémonie des tirages au sort, hein, des phases de poule hommes et femmes à laquelle on a assisté pour le tournoi olympique de foot. On a quelques belles interviews à vous passer. Et puis fidèle à la tradition, on va parler des sports, j'allais dire peu médiatisés, sauf chez nous, on en parle. On va recevoir donc ce soir Michel Binello, le président de la section tir à l'arc de AS RTL. Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Oui. Ça va, c'est pas l'association sportive d'RTL
chez nous. Non, non, absolument pas.
Hein, bon, on en reparlera. Et puis, bah, vous êtes accompagné d'une de vos, vos élèves, Tienne.
Voilà.
Bonsoir, Tienne. Voilà. Et puis, je vais saluer celle qui a rien raté du Classico la semaine dernière à Marseille. Hein. C'est Vanessa. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir.
Ça va, pleine forme ?
En pleine forme.
C'était bien le Classico ?
Très bien.
Très bien.
Et puis, dans l'ambiance marseillaise.
Voilà, c'est ça. Et puis, bah, on va saluer celui qui n'a pas quitté la télé du week-end. Il a tout suivi, le marathon de Paris, Paris-Roubaix, tous les matchs de foot, les Coupes d'Europe de rugby. C'est Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Ça va ?
Bonsoir, Philippe.
Ouais.
Bonsoir à tous.
Belle actu sportive.
Ouais, franchement, ouais. C'est chargé aujourd'hui.
Ouais. Et mon petit doigt m'a dit que tu seras à Barcelone la semaine prochaine.
Exactement.
Tu feras ton journal des sports donc depuis Barcelone la
depuis
semaine
Barcelone,
prochaine.
Depuis
Barcelone,
c'est ça.
Très bien. OK. Donc, vous voyez, un vaste programme, donc riche menu. Alors, Michel Binello, on aura eu l'occasion de parler un tout petit peu en off avant. Sacré parcours sportif, ça commence par le vélo, le judo et puis le tir à l'arc.
Le tir à l'arc,
oui.
Voilà. C'est
bon.
Mon fils qui m'a emmené au tir à l'arc.
Oui, c'est arrivé comment ? Bon, d'abord, très brièvement, le vélo, après on passe au judo et après au tir à l'arc.
Alors le tir à l'arc, c'est parce qu'un jour, il y avait des copains de mon fils qui tiraient avec des arcs à poulies et voulaient s'insérer dans un club plus près de chez eux. Mm-hmm. Mais malheureusement, on leur a refusé parce qu'on n'acceptait que des arcs classiques.
D'accord.
Donc la meilleure façon pour pouvoir démarrer, ben, c'est qu'on a créé notre propre club.
Mmh. Alors on va rappeler, vous êtes un club du 12e, hein, même si vous êtes sur plusieurs sites, plusieurs endroits.
Voilà.
Le côté administratif, c'est le 12e.
C'est le 12e.
Oui.
Et notre siège est 6 rue Fernand Fourreau, Paris 12e, près de la porte de Vincennes.
Bon, c'est pas très loin d'ici, remarquez.
Non, c'est pas loin.
Il y a le pont à traverser, puis
il y a quatre stations.
Ouais. Alors, est-ce que le tir à l'arc est un sport qui va bien sur Paris, sur l'Île-de-France ? Est-ce que c'est un sport qu'on pratique assez souvent et est-ce que c'est facile de le pratiquer ?
C'est facile de le pratiquer, mais disons qu'on conseille plus aux gens de rentrer dans un club où il y a des sites dédiés, disons, pour tir à l'arc en salle ou à l'extérieur.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, c'est commencer par la phase de préparation qui commence en septembre, à savoir que tous les sports commencent en septembre avec les écoles, les collèges, les lycées.
Alors, vous êtes sur plusieurs sites, hein. Je crois savoir quand même, notamment le gymnase de Caillot.
Le gymnase Caillot dans le 13e.
En 13e, oui.
Et puis, dans le gymnase Doménil, à 74 avenue Doménil, Paris 12e, les jeudis soirs pour les compétiteurs et le samedi matin pour tout le monde et pour aussi en particulier les séances d'initiation.
D'accord. Et il n'y a pas le Val-de-Marne aussi ?
Non, si, non. Là, on va sur le parc du Tremblay. On travaille aussi à l'extérieur sur le parc du Tremblay, si vous voulez, donc qui se trouve à 10 minutes, un quart d'heure de Paris.
Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est facile comme ça de se démultiplier sur tous les sites ?
C'est-à-dire qu'il y a des sites, bon, les gens viennent directement sur place, il y a que sauf le parc du Tremblay où on les amène, si vous voulez, directement pour leur faire connaître le protocole pour utiliser le parc. Et après, ils peuvent y aller tout seuls, mais on leur conseille quand même d'y aller à deux en cas qu'il y ait quelques petits problèmes. Voilà.
Mm-hmm. Bon, vous êtes combien d'abord dans votre club ? Et puis, je crois qu'il date de 89, c'est
85,
ça ?
1985,
ah oui.
C'est-à-dire qu'en 2025, on fêtera nos 40 ans.
Ah, c'est bien, c'est bien. On ira faire un petit reportage.
Ouais.
Hein. Donc, bon, comment c'est arrivé ce club ? Comment on arrive à faire venir des gens pratiquer un sport aussi, j'allais dire, confidentiel que le tir à l'arc.
Au début, si vous voulez, bon, on a commencé avec les 10 personnes qui tirent avec des arcs à poulies. Mmh. Puis après, on a eu des classiques. On a été aidé aussi par le magasin de tir à l'arc qui se trouve à la porte de Vincennes, oui. qui nous ont avancé du matériel en nous disant « vous paierez quand vous aurez le temps ».
D'accord.
Voilà.
Mmh.
Puis il s'est trouvé qu'à la fin de saison, on s'est retrouvé avec un premier effectif, 40 personnes.
Ah ouais. Et maintenant, vous êtes combien?
Alors maintenant, on a un peu souffert quand il y a eu le Covid. Ah, on était redescendu de 85 à 25. Oula. Et là, on a remonté progressivement d'année en année. Et cette année, on a dépassé puisqu'on est repassé à 100 personnes.
Alors, nous sommes début avril. C'est trop tard pour venir vous rejoindre. Il faudra attendre le mois de septembre.
Il faut attendre le mois de septembre.
Eh oui.
Voilà. Alors, on prend quand même maintenant des gens, parce qu'à force d'avoir des appels après le démarrage de la saison, on a décidé depuis une quinzaine d'années de relancer une deuxième session qui commence en janvier.
D'accord. Voilà. Ok. Alors, Tienne est avec vous. C'est votre élève, c'est ça?
C'est une élève que j'ai formée.
Elle est assidue, ça va? Ça se passe bien? Elle écoute bien? Elle est sage?
Très assidue.
Ouais.
Bon, Tienne, qu'est-ce que vous êtes, passionnée et intéressée dans ce sport qu'est le tir à l'arc?
Alors, comme beaucoup, j'ai fait une initiation.
Oui. Vous êtes parisienne? Vous êtes
parisienne? Oui, je suis parisienne. Oui. J'habite le 12e.
D'accord.
Donc, comme je disais, comme beaucoup, j'ai fait une initiation lors d'un anniversaire et ça m'a plu. J'ai découvert, mais complètement, le tir à l'arc à ce moment-là.
Ah, c'était le cadeau d'anniversaire. On voulait, voilà.
C'était pas mon anniversaire, mais c'était quand même mon cadeau.
D'accord, ok.
Et j'ai découvert ça, ça m'a plu. Mm-hmm. Après, bon, malheureusement, il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu m'inscrire. Et dès que j'ai pu m'inscrire, ben voilà. Mm-hmm. Je me suis inscrite. Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? C'est votre premier sport que vous pratiquez ou vous en avez pratiqué d'autres avant?
Non, c'est mon premier vrai sport, on va dire.
Oui.
Après, bon, je fais évidemment un peu de course, un peu d'entretien, mais pas de judo ni de vélo haut niveau.
Ah oui, parce
qu'on
en parlait avec Michel, hein, il m'a montré quelques photos qui sont collecteurs aussi. Hein, mais sacré parcours quand même. Hein, on commence par le vélo, ensuite on enchaîne sur le judo. Et puis, il y a des similitudes, Michel?
Non, alors justement, c'est ce que je voulais dire. Il y a des sports qui sont incompatibles, si vous voulez. Vous prenez un tireur à l'arc. Le tireur à l'arc, disons, il y a l'arc en tension, si vous voulez, on travaille les muscles de la même façon qu'un judoka. Judoka, il tire sur le kimono.
Mais il y a quand même une concentration énorme.
Alors, c'est un sport de concentration et de précision. Et comme je dis toujours, le tir à l'arc, ça ne s'improvise pas, car ça s'apprend, car tous vos défauts se répercutent à l'arrivée.
Ah oui, d'accord. Vanessa, tu as eu l'occasion de suivre des compétitions de tir à l'arc. Hein. Je crois que c'était l'année dernière, une épreuve de Coupe du Monde là, sur
Tout
Paris.
Tout à fait, l'étape parisienne de la Coupe du Monde l'année dernière, qui se déroulait aux Invalides, donc sur le futur site olympique du tir à l'arc. Et j'ai été vraiment très impressionnée, non seulement par la concentration qu'il faut, par toutes les qualités et physiques et mentales que ça demande. Et puis, je trouve que ça tient vraiment en haleine, surtout et aussi sur les derniers points de match, quand c'est très serré. Et puis aussi impressionnée quand j'avais été à Charletti pour les qualifications. Et puis, j'avais été voir la finale aussi après aux Invalides. Parce que pour les qualifications, de mémoire, c'était 72 flèches qu'il fallait tirer, en fait. Et imaginez 72 flèches les unes après les autres, la concentration qu'il faut avoir et de gérer et le physique et le mental et tout. Donc j'ai été vraiment impressionnée par ce sport que j'ai trouvé captivant et que je découvrais réellement en compétition internationale pour la première fois et j'ai beaucoup aimé.
Oui, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que finalement la meilleure promo pour votre sport, c'est pas d'avoir une médaille olympique comme en 92 avec Sébastien Flute? Oui, hein?
Non, moi je pense ce qu'il faudrait que les gens, si vous voulez, prennent une activité et ne fassent qu'une activité, mais bien on pourra en retirer quelque chose, si vous voulez. Souvent, les gens font trop de choses à côté et ils n'arrivent peut-être pas à trouver quelque chose qui leur apporte un.
Parce que vous m'aviez dit, il y a un problème au niveau de la compétition. Vous, c'est beaucoup plus tendance loisir. Les gens, la compétition, ils ne sont pas trop attirés par.
Non, cette année, si vous voulez, on a constaté qu'il y avait moins de gens qui voulaient faire de la compétition. Oui. Les gens, maintenant, s'orientent plus dans tous les sports vers un sport de loisir. D'ailleurs, on le voit quand les gens. Moi, l'année dernière, je n'avais pas de problème pour solliciter les gens pour participer à des compétitions, même de débutants. Alors que cette année, il faut les prier ou leur dire non, je pars en vacances, c'est les congés scolaires, il y a toujours un truc, si vous voulez, où ils s'absentent. Il n'y a pas de régularité.
Oui.
Alors que je dis, c'est pour progresser dans un sport, c'est l'entraînement qui fait la progression.
Oui. Oui. Alors, vous, donc, vous commencez au mois de septembre. C'est uniquement en plein air ou en indoor?
Alors, en septembre jusqu'à peu près février-mars, on travaille en salle. Et après, on travaille à l'extérieur. D'accord. Alors, on peut travailler sur des distances extérieures à 50 mètres, 70 mètres. On peut aussi faire des parcours 3D ou parcours de campagne.
Alors, on va rappeler vos créneaux, vos jours d'entraînement, de créneaux, alors, et puis les lieux.
Alors, les lieux. Alors, le lundi, nous travaillons sur Caillot de 18h30 jusqu'à 20h.
D'accord.
Après, sur le Doménil, on travaille le jeudi soir de 20h à 22h, mais c'est réservé aux compétiteurs.
D'accord. Uniquement les compétiteurs.
Voilà. Et puis, disons que le samedi matin, il y a des gens qui viennent en loisir, qui n'ont pas d'horaire. Si vous voulez, ils peuvent arriver à 9h, repartir à 10h30. Alors que les initiations, il y a deux cours d'initiation. Un qui commence à 9h jusqu'à 10h15 et le second part de 10h30 jusqu'à 11h45.
Mmh. Et le dimanche, rien?
Alors le dimanche, il y a des compétitions pour ceux qui veulent bien.
D'accord. Est-ce que finalement, vous êtes en présent heureux, satisfait au niveau du parcours de votre club et sa philosophie?
Alors nous, ce qui se passe, c'est qu'on a voulu d'abord un sport convivial.
Oui,
voilà. Donc c'est plus convivial, on travaille pas en adjudant de compagnie.
Oui.
Donc après, les gens vont choisir après l'arme qu'ils veulent. Mais en principe,
on va en parler ça, c'est très important, ouais. Vas-y.
Donc les gens choisissent leur arme, donc on verra par la suite. Alors il y en a qui s'orientent vers le poulie, d'autres sur les arcs, ce qu'on appelle les arcs de instinctifs, les arcs en bois, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi arc nu.
Oui, parce que c'est ça, c'est ce que je vois. Donc, 5 créneaux de tir en salle, il y a 3 sites de tir en extérieur permanent. Hein. Et donc, il y a l'arc classique, donc on va l'expliquer hein, pour ceux qui ne sont pas très spécialistes. Il y a l'arc droit, l'arc Rekyuv, l'arc Kunpun, et puis le Kyudo, c'est un mélange de tir à l'arc traditionnel japonais. Alors, là, on voit l'historique du judo. Hein.
Voilà. Ben, c'est un jour une Allemande qui m'a contacté en me disant, voilà, je m'occupe de Kyudo et je ne trouve pas de salle pour faire mon activité. Et puis j'ai gardé la lettre sous le coude. Puis un jour, quand on a eu le samedi matin en plus à Doménil, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, si tu veux, on fait un essai, puis on verra bien si ça va être pérenne ou pas du tout.
Alors, ça veut dire qu'on rentre dans votre club, on vient dans votre club. D'abord, on paye combien?
Alors, pour une personne qui rentre pour la première saison, pour un adulte, ça va vous coûter 300 euros.
300 euros pour la saison.
Et pour un moins de 18 ans, ça va le coûter 280.
D'accord.
À savoir que dans ce tarif, il est compris le droit d'entrée de 50 euros et le maillot du club.
Le maillot que vous avez là.
Le maillot que j'ai.
Ouais. Voilà. Il est beau d'ailleurs. Ouais. J'aime bien les couleurs, oui.
Donc l'année suivante, bien, ils reviennent, si vous voulez, ils poursuivent leur activité. Et à ce moment-là, ils ne paieront plus que pour les adultes 220 euros et 200 pour un moins de 18 ans.
Mais s'ils veulent faire de la compétition, il y a un petit supplément?
Alors, il n'y a pas de supplément. On lance une liste, on fait un choix sur une liste qu'on leur donne et après, je fais telle compétition, etc. Puis on essaie de se regrouper pour être vraiment en club. Et puis après, on les accompagne pour les entraîner un petit peu et puis les conseiller.
Alexandre, t'aimes bien le tir à l'arc, hein, tu me disais là, hors antenne en arrivant.
Ouais, franchement, moi, j'aime beaucoup. Et comme a dit Vanessa, je suis impressionné par le fait qu'il faut allier à la fois physique et surtout, ça se passe vraiment dans la tête. Ça me fait penser à tous ces sports un peu comme le biathlon ou le tir, tout simplement. Et ça, voilà, c'est des trucs que j'aime bien. Et en fait, je faisais sur la console quand j'étais petit.
Peut-être différent.
Ouais, non, c'est forcément différent.
Ah ouais.
Mais voilà, j'aimais beaucoup et donc j'aimerais bien être initié.
Tienne, vous êtes une personne calme dans l'ensemble, non?
Oui, plutôt calme. Oui.
Oui, parce que justement, c'est une des particularités du tir à l'arc, hein, quand même. C'est cette maîtrise, cette concentration qu'il faut acquérir. C'est bon de faire, par exemple, de sophrologie ou yoga?
Alors, justement, le tir à l'arc est souvent recommandé par des médecins pour des enfants qui sont un peu trop nerveux.
D'accord.
Et puis, ça peut aussi, certains qui ont des problèmes de scoliose aussi.
Ah bon?
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'avais été l'année dernière à la Coupe du Monde, pendant les qualifications, j'ai parlé avec des pratiquants, des gens dans le public, et il y avait une maman qui m'avait justement expliqué que son fils avait pas mal de problèmes et tout ça, et qu'en faisant du tir à l'arc, ça l'avait énormément aidé.
Parce que vous travaillez aussi avec les écoles, vous allez faire des initiations, ou est-ce que les écoles viennent tirer sur dans vos stands? Parce que je sais que ça se fait. Hein.
On a des enfants qui viennent de lycée, de collège ou d'école, mais disons, on va pas dans les écoles.
Oui. Les cours de gym, c'est peut-être compliqué, mais ils viennent, quoi. Vous travaillez en partenariat avec les lycées, les collèges, les établissements primaires.
Par contre, dans les lycées ou des collèges, on m'a demandé de venir comme conseiller, si vous voulez, pour faire de la fiblerie, etc., etc., ou installer une section de UNSS, par exemple.
Et alors? Ça marche bien.
Ça marche bien.
Ils sont réceptifs.
Ce qui fait qu'avec tous ces gens-là, on a créé des liens d'amitié. Donc, on se voit régulièrement sur des concours débutants, même sur des concours officiels.
Alors, on rentre, je l'ai dit, donc, dans votre section. Vous nous avez donné les tarifs, les prix. Après, on peut pratiquer toute forme d'art ou vous êtes spécialisé?
Ah non, alors on va commencer par l'orque classique, l'orque en bois qu'on trouve pendant les vacances. Alors après, on va passer sur un art. Alors, progressivement, si vous voulez, on va monter.
Il faut que nos auditeurs soient au courant de tout s'ils veulent venir vous voir.
Donc, nous, ce qu'on fait, si vous voulez, on prête pendant 3 mois, on prête le matériel, on le fait évoluer. On change les branches au fur et à mesure pour monter en puissance. Ouais. Et ensuite, on leur demande de s'équiper avec un arc définitif.
D'accord.
Pour que, si vous voulez, ils progressent un peu plus. Et puis qu'ils aient leur propre matériel.
Ça, c'est le classique, ça.
Ça, c'est le classique.
Oui. L'arc, il est comment? Ça a beaucoup changé. Il n'est plus en bois, l'arc. C'est fini.
C'est l'arc classique que vous trouvez aux Jeux Olympiques.
Oui,
c'est ça. D'ailleurs, on l'appelle arc olympique maintenant.
D'accord, bien sûr. Ça coûte cher?
Ben, ça dépend. Ouais. Alors moi, quand je dirige les gens, je leur propose, si vous voulez, 3 budgets en fonction de ce qu'ils veulent faire. Soit ils veulent faire que du loisir, donc ils vont rester dans un budget de 350 à 500 euros. S'ils veulent faire un panaché loisir compétition, ça va être entre 500 et 600. Et après, ça va être 700 et plus s'ils veulent faire de la compétition.
D'accord. Mais on travaille sur le long terme, là. C'est un arc qu'on garde pendant 4 ans, 5 ans.
On change pas d'arc tous les 5 minutes.
Oui. Non, mais parce qu'il y a des sports, il y a le matériel de compétition, puis le matériel d'entraînement. Non. Puis il y a un petit côté fétichiste aussi.
Oui, absolument.
Oui, vous voyez.
Puis il y a des gens qui sont attachés à des couleurs, c'est aussi.
Oui. Ah oui.
Ah oui. Mm-hmm. Là, je suis tombé sur une élève, elle voulait absolument un arc vert.
Ah, ouais.
Mm-hmm. Et puis il y a aussi le budget des flèches et puis
on va démarrer avec des flèches. Mais déjà maintenant les arcs ils sont comment? Ils sont en fibre de carbone, c'est comment?
Non, pas absolument. On va démarrer sur des arcs en acier, en aluminium. D'accord. Existe pour les compétiteurs maintenant des arcs avec des poignées en carbone, des branches carbone, si vous voulez. Ouais, voilà. Mais disons le tarif c'est pas le même non plus.
D'accord. Et ça c'est dans des magasins très spécialisés. On peut pas le trouver dans le commerce.
On le trouve dans les magasins spécialisés où vous avez des vendeurs qui vous conseillent et qui sont souvent des
spécialistes,
des compétiteurs. Ils sont archers eux-mêmes.
Alors, comme le disait Vanessa, il y a aussi les flèches.
Il y a les flèches.
Alors, ça a changé, les flèches?
Au début, on travaillait avec des flèches en aluminium. Oui. Mais disons que c'était assez fragile. Alors, en principe, on utilise la flèche aluminium en salle et maintenant, on utilise le carbone à l'extérieur.
Ça va à combien?
Quand on débute, on peut avoir des flèches à 3,50 euros, mais alors après, quand vous avancez dans...
Et le coup, il part à combien de kilomètres heure?
Tout dépend de la puissance que vous tirez.
Oui, mais justement.
Voilà. Alors, la puissance qu'on va tirer, si vous voulez, ça va être aménagé en fonction du physique de la personne.
Oui.
La tendance, c'est pas de lui donner un arc trop fort. Il faut qu'elle puisse le tirer et y trouver une satisfaction. Après, vous avez l'allonge de la personne quand elle est en tension.
Mais ça se travaille, ça.
Alors ça se travaille et cette allonge va déterminer la longueur de leurs branches.
Voilà. Et les fibres, elles sont à combien?
Alors, quand on débute, pour nous, on débute avec très peu de mètres avec une cible, avec un blason de 60. Et puis progressivement, on monte dans la distance, on monte dans la puissance, on change les branches au fur et à mesure. Pendant 3 mois, on a 3 mois pour le faire.
Mais dis donc... Ça demande quand même...
Non, pas du tout.
Ça muscle les bras, ça muscle le dos, ça muscle...
Non, chaque puissance, si vous voulez, est adaptée au physique de la personne.
Oui.
Par exemple, moi, j'ai des élèves, par exemple, que j'ai équipés dernièrement. Je dis, c'est pas la peine de tirer 24 livres quand vous pouvez en tirer 22 facilement. 24 livres, ça va être trop. Puis la personne va être bloquée, si vous voulez, avec son cerveau, dire, il faut que j'y arrive. Mais après, elle n'aura aucune autre attention.
Et une hygiène de vie est indispensable. Est-ce que le poids est important?
Non, il y a des gens de tout gabarit, c'est pas
ni l'âge non plus.
Non, l'âge non plus.
Oui.
Nous on prend de 13 ans jusqu'à.
Oui, c'est ça qui est bien. Oui, c'est bien.
Jusqu'à 75 ans, comme on dit couramment.
Oui. Donc ça c'est l'arc classique.
L'arc classique.
Ah, l'arc olympique.
Alors après vous avez des gens qui. Alors il faut d'abord commencer par le classique déjà pour apprendre ce que c'est que la visée, etc.
Et ça on met en combien de temps ça? Il y a des gens plus doués que d'autres peut-être qui saisissent
tombé sur des gens qui étaient difficiles à faire comprendre. J'insistais pas plus. Puis après, ils ont le déclic et ça part tout seul après. Puis après, vous avez des gens qui sont plus rassurés, qui d'un seul coup font des bêtises.
Après, donc, il y a une deuxième forme d'arc.
Alors après, vous avez les arcs à poulie.
Oui.
Alors ça, c'est surtout pour des gens qui veulent tirer des longues distances et qui n'ont pas le physique pour tirer des grosses puissances en classique. Alors, ça va vous donner par exemple un exemple. Vous prenez un arc poulie qui va développer 40 livres. Quand vous tirez dessus avec, sur la corde, les poulies vont démultiplier, ce qui fait que ça va vous ramener, par exemple, à 20 livres. Mais quand vous allez relâcher la corde, vous allez restituer les 40 livres.
D'accord. Et quand on se spécialise d'un arc, on ne peut pas changer, on ne peut pas revenir à l'autre, si
on peut faire. Moi, j'ai connu des gens qui tiraient le samedi en classique et le dimanche en poulie.
D'accord. OK. Il n'y a pas une approche particulière, quoi.
Vous tirez toujours sur la même distance, oui. Mais sur les mêmes blasons.
Oui, oui. Alors ensuite, l'arc recuve, c'est quoi ?
Le récurve, alors c'est l'arc style Robin des Bois, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle aussi un arc nu.
Ce qu'on voyait enfant, voilà. Robin des Bois.
Alors là, c'est votre cerveau qui doit enregistrer plein de paramètres, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de viseur, il n'y a rien.
Mm-hmm. Très bien. Alors ensuite, l'arc Kung-Poon.
Alors le Kung-Poon, c'était l'arc à poulie.
Oui, c'est ça. Voilà. Ah d'accord, OK. C'était instinctif. Et puis donc, l'approche de l'art martial.
Alors le Kyudo, il y a quelques adhérents. Actuellement, il y a une dizaine d'adhérents qui sont au Kyudo.
Oui, d'accord. Et c'est quoi ? Expliquez-nous un petit peu la philosophie.
Alors la philosophie, si on l'appliquait aux Européens, ça ne marcherait certainement pas. Parce que quand vous êtes au Japon, vous apprenez le Kyudo, vous ne tirez pas votre première flèche avant un an.
Ah bon ?
Alors, c'est une répétition, si vous voulez, de lâcher, de posture, etc. C'est comme en judo, j'aimais le judo, si vous voulez, pour la technique et pour la compétition. Mais quand il fallait faire les katas, ce n'était pas ma tasse de thé.
Alors, c'est un sport qui est quand même très mixte, il faut dire. Vous avez beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles qui pratiquent ce sport.
D'année en année, si vous voulez, on a un pourcentage de 38 à 40% de femmes.
C'est presque la parité bientôt.
Voilà.
Tienne ? Oui.
Ah oui,
vous avez beaucoup de... Ouais. Et tirer homme-femme, c'est pareil ?
Il y a toujours le rapport... Il y a le rapport physique, si vous voulez, de la morphologie, du physique de la personne.
Tiens.
Oui, mais le mental fait beaucoup. Ça
se travaille, ce mental, justement.
Ça se travaille.
Oui, alors comment ils font, vos pratiquants et pratiquantes, pour le travailler ?
Alors déjà, vous pouvez pratiquer de la respiration.
Justement, c'est hyper important, ça, oui.
Ce qu'on appelle la respiration autonome.
Oui.
D'ailleurs, c'est un petit peu comme la pratique du yoga.
D'accord. Voilà. Okay.
On respire avec le ventral.
Ça s'apprend, ça. Vous avez des formateurs, vous avez des éducateurs, éducatrices.
Alors, moi, dans le club, je m'occupe de la partie sur les formations pour débuter.
Oui, parce que je crois que vous êtes un peu l'homme à tout faire au club.
Non, je ne suis pas spécialement.
président.
Oui, présent.
Alors, après j'ai un collègue qui s'appelle Simon, si vous voulez, qui est là depuis le départ, si vous voulez.
Ouais.
Donc, tous les deux, on est les piliers. Puis à côté de nous, on a toute une équipe. Qui nous aide aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Puis, il y a une ambiance formidable.
Alors, vous l'avez dit, vous tirez donc en salle et puis en plein air l'été. Je suppose que l'approche est différente quand même.
Alors, l'approche déjà que le matériel, par exemple, quand vous êtes en salle, vous pouvez travailler avec une stabilisation centrale.
Ouais.
Mais quand vous êtes à l'extérieur, vous devez avoir des latéraux pour se supporter, si vous voulez, les intempéries, etc. Vous avez toujours des plus ou moins de turbulences.
Oui.
Donc votre stabilisation avec les latéraux va stabiliser votre arc.
Et s'il vente ou il pleut, on annule ou on fait quand même ?
Non. À moins qu'il y ait vraiment un truc impossible. Mais en principe, moi j'ai assisté à des compétitions, j'ai fait des compétitions. Il pleut, on continue.
Oui, d'accord.
Alors forcément, c'est gênant pour les flèches parce que quand la flotte tombe.
Alors, parlez-nous un peu des compétitions. Quand on s'inscrit en compétition, comment ça se passe ?
Alors, nous, on fait une liste que l'on propose aux archers. Et ils doivent caser les cases en disant s'ils veulent faire le samedi ou le dimanche. Alors, on essaye toujours aussi que tout le monde se retrouve à la même heure. C'est-à-dire pour partir ensemble et se retrouver ensemble sur le terrain.
Ça, c'est important.
C'est un problème d'ambiance.
Oui, bien sûr. Voilà. C'est important. Ouais.
Donc,
Oui, on vous laisse. Vas-y.
Donc on emmène les gens sur place et on les entraîne un petit peu avant sur les distances. Alors on peut tirer à 50 mètres et on peut tirer aussi à 70 mètres.
Est-ce que vos résultats sont bons finalement ?
Alors on peut considérer que nos résultats sont bons.
Oui. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui sont peut-être un jour capables...
Pour mémoire, si vous voulez, la fédération avait lancé le tournoi des mixtes.
Oui.
Un homme, une femme.
C'est bien ça.
Et ça a commencé en 2019. Et ça s'est fait aussi en 2020. Et on a remporté, avec le couple que nous avions présenté, on a gagné pour Paris, sur l'île de France et au National, ce qui correspond à un championnat de France. Et qui était donc coaché par mon collègue Simon.
D'accord. Tiens, vous faites de la compétition ?
Oui,
Oui, alors ?
Oh, mais c'est très bien.
Ouais.
Oui, oui. Ça et va. Puis, j'ai commencé l'année dernière, hein,
oui,
le tir à l'arc.
Oui, oui, oui.
Et je pense que j'ai fait toutes les compétitions.
Oui, c'est bien. Mais vous allez loin, en dehors de Paris, sur l'Île-de-France, même
non,
parfois...
On reste en Île-de-France. Ah, moi, en tout cas, je reste en Île-de-France. Ouais.
Alors nous, on fait en sorte, si vous voulez, qu'on ne travaille pas toujours dans les mêmes secteurs, de façon à rencontrer d'autres personnes. Parce que si vous rencontrez toujours sur un département les mêmes bien personnes, sûr. Vous avez presque ouais. le résultat.
Vous allez où, vous allez où
Alors, on travaille sur Paris. Oui. On fait la
CDMA. Il y a beaucoup de clubs sur Paris.
Sur Paris, il y a 15 clubs.
15 clubs.
Mmh. Alors donc, on va sur la Seine-et-Marne, on va sur le 78, le 92, ouais. le 95. Mmh. Et...
D'accord. OK. Et vos rapports entre vous sont bons ? Il n'y a pas de...
Non, mais c'est ce qu'on a recherché, si vous voulez. Nous, on a voulu, si vous voulez, déjà que ce soit convivial et que ça soit ouvert à tous les types d'arcs.
Mmh. Mmh. Vanessa, ouais.
Bon. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, je voulais un petit peu rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y a l'arc aussi, le kyudo, qui se pratique au Japon. Et justement, quand j'avais été sur cette Coupe du Monde, j'avais aussi un peu parlé avec des gens. Et puis, c'est en Corée, c'est un sport qui s'apprend à l'école. Les jeunes sont appris à l'école. Et ce qui explique aussi, on va dire, quand même une certaine domination de la Corée
dans
certains arcs classiques.
Surtout sur les arcs classiques.
Voilà.
Pour les arcs à poulies, c'est surtout les Américains. Quoique maintenant, ça a changé un petit peu. Il y a des pays qui se sont mis. Et que vous avez vu la Coupe du Monde, il y a d'autres pays que les
oui.
Américains qui ont gagné.
Les Indiens. Voilà. Enfin, il y avait des Indiens. Il y avait un peu toutes les nationalités.
Voilà.
Mais c'est vrai que... Eux, en Corée, les enfants apprennent dès l'école les gestes, justement, à l'école. Voilà. Ce qui, chez nous, est beaucoup moins dans notre culture. Donc, on ne pratique pas. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, que ça peut aussi venir de là ? Parce que tout ces...
Il y a une mentalité aussi qui est oui. différente des Européens. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, le tir à l'arc, comme l'autre sport, c'est humilité, simplicité, assiduité, écouter le moins de gens possible. C'est-à-dire qu'en Corée, vous avez un coach. Et vous ne devez voir tout que par votre coach. Il n'y a pas de renseignements à voir à droite ou à gauche. C'est votre coach qui vous suit, c'est lui qui vous conseille. Et à chaque fois que vous avez un problème, vous voyez votre coach. Mm-hmm.
Et d'ailleurs, ouais. l'entraîneur de l'équipe de France, depuis un certain temps, est coréen, c'est Monsieur Oh. Hein, c'est,
Monsieur Oh.
Et c'est vrai que justement, il a été recruté pour son expertise. Et c'est aussi le tir à l'arc. Et le sport est beaucoup pratiqué en entreprise dans les pays asiatiques
aussi. Oui, absolument,
aussi,
absolument. Ouais. Mm-hmm. Dans les universités, comme aux États-Unis, c'est oui. pareil, il y a beaucoup de sport mm-hmm. dans les universités.
Alors,
exactement.
Ouais, alors, on parlait des actions que vous faites pour l'école. Est-ce que vous faites aussi, est-ce que vous participez à des actions caritatives ? Par exemple, le Téléthon. Voilà, Téléthon, on paye 2, 5 euros, 10 euros pour venir s'initier au tir à l'arc. Je sais que ça se fait ailleurs.
Alors, on a déjà participé à un téléthon, oui. mais ça ne se pratiquait pas de cette façon-là.
Oui.
C'est-à-dire que c'était sans arrêt, si vous voulez, non-stop, et on se relayait, et on tirait des flèches, et par flèche, il y avait une somme d'argent.
Ah, d'accord. Ouais, c'est pas idiot. Ouais, ouais. Hein. Et puis, on peut aussi tirer sur les animaux, c'est ça hein.
On peut tirer sur les animaux sur des parcours 3D.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Mmh.
Alors, une carrière dure autant qu'on veut.
Voilà. Jusqu'à ce que mort s'en suive.
Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et donc, une fois que bon, les principales compétitions, c'est quoi ? C'est les championnats régionaux, championnats de France. Ouais.
Championnats régionaux, départementaux et nationaux. Mmh. Et internationaux pour ceux qui vont dans des hauts niveaux.
Est-ce que, je suppose, vous attendez beaucoup des Jeux Olympiques, je suppose ?
Alors, justement, j'ai l'impression que cette année, le fait des Jeux Olympiques nous a permis de remonter, puisqu'on a 20 personnes de plus cette année par rapport à l'année dernière.
20 personnes, 20 personnes. Et je vous dis, hein, s'il y a des médailles, vous aurez plus. En septembre 2024, vous allez voir.
Alors, par contre, le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'au-dessus d'un nombre de personnes, ça devient difficile à gérer.
Oui, pourquoi ?
Parce qu'à un moment donné...
Vous manquez de bénévoles, de dirigeants ?
Non, c'est les espaces qu'on demande à la ville de Paris qu'on ne peut pas avoir parce qu'il n'y a pas assez de gymnase.
D'accord, ok. Ça, c'est un problème, de toute façon. C'est pour ça que quand je vous disais comment on va le tir à l'arc, est-ce qu'on peut le pratiquer facilement dans Paris ? Il y a quand même encore des problèmes de place et d'infrastructure.
Maintenant, en espérant qu'il y aura peut-être des locaux qui resteront après les Jeux Olympiques, qui permettront justement de faire un peu mieux que les autres années.
Oui, bien sûr. Alors, je voulais aussi qu'on parle des accessoires, parce qu'on a parlé des flèches, on a parlé des arcs, mais il y a tout le reste. Est-ce qu'il y a une tenue réglementaire quand on fait des compétitions ?
Au début, quand j'ai commencé...
On peut venir comme ça en short, en maillot de bain, tout ça ? Non,
pas.
Je le fais exprès.
Absolument pas. Non, quand j'ai commencé le tir à l'arc en 90, à cette époque-là, il fallait qu'en compétition, on soit en tenue blanche. Tenue de l'archer blanc.
Obligatoirement.
Maillot et blanc.
Et ouais, ensuite, pantalon.
Pantalon blanc, maillot
chaussures,
blanc.
Chaussures, tennis blanc.
Chaussures de
ouais,
sport.
Oui, oui.
Et après, ils ont accepté que les clubs aient des
tennis fluo, quoi. On peut, donc, ouais.
On peut avoir ce qu'on veut à partir du moment où vous déclarez votre tenue.
D'accord.
Donc, quand vous faites une compétition par équipe, tous les équipiers doivent être dans la même tenue.
Mmh,
mmh. Et éventuellement, par exemple, moi, j'ai déjà vu quelqu'un arriver avec un jean sur une compétition, l'arbitre l'a sorti.
D'accord. Et justement, vous parliez de l'arbitrage. Est-ce que l'arbitrage, ça va, c'est facile, il n'y a pas trop de contestation. Remarquez, la flèche qui tombe dans la cible, voilà, là on ne peut pas la contester. Hein.
Non, mais il y a ce qu'on appelle les cordons.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, vous avez des lignes, si vous voulez, concentriques, si vous voulez, sur votre blason. Et si votre flèche, elle coupe un cordon, si vous voulez, la ligne, les points sont comptés au point supérieur. Si vous voulez, si vous êtes entre le 7 et le 8, c'est le 8 qui sera compté. Si vous êtes juste sur le bord de la ligne, ça sera un 7 qui va être compté. Alors, des fois, il peut y avoir contestation entre les compétiteurs. À ce moment-là, vous appelez l'arbitre qui va, lui, juger et prendre sa décision.
Bon, ça se passe comment une compétition ? Moi, je le sais, mais le grand public ne le sait peut-être pas. C'est en combien de points ? C'est en combien de jets ? C'est en combien de lancers ?
Alors, déjà, il faut vous inscrire. Et quand vous arrivez sur une compétition, on va se présenter à ce qu'on appelle le greffe.
Oui.
C'est-à-dire que vous venez signifier votre présence. Et à ce moment-là, on va vous donner une fiche qui va vous indiquer votre lettre et le chiffre de votre cible.
Mm-hmm.
Et vous tirez à 4 en principe sur une cible, ce qu'on appelle travailler en A, B, C, D. C'est-à-dire, vous avez une compétition, vous avez deux compétiteurs qui tirent en premier, qui sont A et B.
Et combien de flèches on lance ?
Alors, sur en salle, on va tirer 3 flèches.
3 flèches.
Ensuite, quand les A, B ont tiré, c'est le CD qui vont se présenter.
Ouais.
Et à ce moment-là, ils tirent leurs flèches. Et après, les 4 à la fin vont au résultat.
Mm-hmm.
Donc, il y a un marqueur, il y a un contre-marqueur. Et ensuite, ben, vous avez au fur et à mesure des volées. Alors, en compétition pour débutants, c'est 6 volées de 3 flèches. 2 fois 6 volées de 3 flèches. Quand vous êtes en compétition officielle, c'est 10 volées de 3 flèches.
Mm-hmm.
Deux fois, vous avez demi-temps.
D'accord. C'est quoi le record ? Le nombre de points.
Ah ben alors, logiquement, si vous êtes au maximum, vous devriez être à 600 points.
Ouais, c'est déjà arrivé, non ?
Il y en a qui touchent un petit peu, c'est 598, mais il y en a qui l'ont fait au moins une fois, par exemple.
Mm-hmm. Alors, vous m'avez montré certaines photos en venant. Vous connaissez certains grands champions, quand même. Vous avez eu l'occasion de tirer avec eux, entre autres.
Pas m'entraîner, mais m'entraîner plutôt que de tirer avec
oui,
eux.
Oui, oui, oui. Bon, oui, c'est un bien grand mot.
Avec Sébastien Flûte.
Oui. Oui.
Ou alors avec Jean-Charles Valadon qui a été vice-champion olympique en 2000.
Oui, j'ai vu la photo, je suis témoin.
À Rio 2016.
Ouais. Mm-hmm.
Voilà. Alors donc, on l'avait invité à fêter d'abord dans un restaurant. On l'a invité un soir avec sa copine et puis différentes personnes du bureau chez nous
pour
fêter ça. Puis après, pour inviter tout le monde, on a organisé un pique-nique au parc du Tremblay où lui, comme il est du Jura, il avait amené plein de produits de sa région.
Ah oui. Du bon comté notamment.
Du comté.
Entre autres.
D'ailleurs, il était l'année dernière à la Coupe du Monde à Paris. Et puis, il était aussi ce week-end sur l'étape à Antalya. Juste pour faire pour rebondir là-dessus, Lisa Barbelin a gagné le bronze avec les Bleus ce week-end avec Caroline Lopez et Victoria Sébastien. Donc, c'est quand même. Qu'est-ce que vous pensez des résultats du tir à l'arc international ? Quel est votre sentiment un peu pour les Jeux ? Comment vous voyez l'évolution du tir à l'arc ?
Moi, il y a des jeunes qui sortent, si vous voulez. Maintenant, il faut voir avec Jean-Charles Valadon. Il va emmener l'équipe de jeunes, justement, parce qu'il y aura lui, mais ce ne sont que des jeunes, des nouveaux qui vont rentrer en lice.
Mm-hmm. Et ce sport, on peut en vivre ?
Même
au niveau. Non, mais je veux dire, est-ce que les sponsors, les partenaires.
Il y a des sponsors. Viennent... Bah, je vois Jean-Charles Valadon, si vous voulez.
Oui.
Il était pris, si vous voulez.
Vous le connaissez bien. Ouais.
On avait des accords avec la fédération, avec le magasin que tenait mon fils à ce moment-là.
Mmh.
Donc, il venait au magasin, des fois, pour faire un petit peu, montrer sa présence, et puis il rencontrait les gens. Par contre, il était très, très demandé par des différentes radios, télévisions, etc.
Oui, non, mais bien sûr.
Alors, il a une particularité, c'est qu'il est très écolo. Et quand il était à l'INSEP...
Ça va souvent de pair. Hein. Chez les champions de tir ou de tir à l'arc, il y a un côté souvent très écologique.
Un jour, il nous a montré qu'il élevait des lapins. Et puis, il avait un petit jardin à l'INSEP pour cultiver ses légumes.
Mm-hmm. Ouais. Et par rapport au handisport, est-ce que...
Alors, handisport...
Vous avez aussi des actions. Et puis, est-ce que parmi donc, l'handisport, c'est un sport assez pratiqué, le tir à l'arc ?
Alors, en tir à l'arc, il y a des handisports. C'est-à-dire, aux Jeux Olympiques, il y aura le Turc qui va tirer.
C'est pour ça que je pose la question.
Que j'ai très bien connu avant qu'il ait son accident. Mmh. Et donc, pour moi, j'ai eu aussi l'occasion.
J'ai vu un reportage dans le Stade 2, d'ailleurs. Il s'entraîne de sa maison. Oui, dans tout le sport, pardon.
Alors, justement, il tirait avant en classique et là, il est passé en poulie.
Oui, oui, il a tiré étant jeune. Il a fait des Jeux Olympiques. Il a un gros pépin de santé. Il revient cette fois-ci pour les Paralympiques. Il y a eu un très bon sujet qui a été passé dans tous les sports récemment. Ouais.
Je l'ai vu. Mmh. J'ai vu. Mmh.
Bon, combien, 2-3 médailles, c'est possible?
C'est possible.
Oui, c'est possible.
Il faut espérer quand même. Si on
n'y
croit pas.
Non, parce qu'il faut le dire quand même. C'est...
On est chez nous.
Bah oui, non, puis c'est le reflet. Vous allez suivre les jeux, vous êtes passionné par tous les sports, vous l'avez dit.
Oui. Non, mais moi, si je suis passionné, je suis passionné.
Oui, bah, ça se voit.
D'ailleurs, la demoiselle, elle m'a dit la dernière fois, elle m'a dit, tu m'as donné la passion du tir à l'arc.
Oui. Exactement.
Comment il est
Il est drôle.
Drôle, c'est ça. Jamais autoritaire. Il parle beaucoup à...
Alors, il faut l'écouter,
oui.
Ça c'est sûr.
Ah bah oui.
Ça, c'est la base pour pouvoir progresser.
Il donne beaucoup de consignes, il parle beaucoup à ses archers et archères, c'est ça?
Oui.
Ouais. Mmh.
Et puis, de toutes les manières, il faut suivre ses consignes parce que c'est juste comme ça que... Ça n'est que comme ça qu'on peut progresser. Mmh.
Et puis, vous avez toute une équipe de bénévoles à vos côtés. C'est important. Hein. Michel, il ne faut pas l'oublier.
Non, mais on peut dire merci si vous voulez.
Bah, vous êtes là pour ça.
À Michel, Richard,
oui,
Stéphane,
vous êtes là pour ça.
Sylvie. Mmh. Comment elle s'appelle, Dominique.
Oui. Voilà. Est-ce que vous faites des journées portes ouvertes aussi
Non, mais on participe avec la mairie, si vous voulez.
Oui, une forme des associations.
Quand il y a le forum des associations.
Mais dans le 12e.
Voilà. Oui. Alors, il y avait une épreuve, c'est pas une épreuve, mais il y avait une journée que le 12e faisait, c'était 12 au sport, où il fallait déménager tout un tas de matériel. On passait entre 10h et 18h 200-250 personnes. Pour leur faire toucher un arc, leur montrer un petit peu, etc. Et en résultat, d'année en année, on s'est aperçu que ça demandait beaucoup de travail. Il fallait trouver des bénévoles, et c'est toujours les mêmes. Et qu'en finalité, ça ne nous apportait rien. On a plus de retombées quand il y a le forum des associations qu'autre chose. Et d'accord. Puis aussi quand les gens vont sur notre site.
Oui. Et les jeunes, ça leur plaît ou c'est un sport de conversion pour beaucoup
Alors...
J'ai
connu, par exemple, beaucoup de judokas qui sont venus au tir à l'arc.
D'accord. Mmh. Pourquoi? Oui, bah. Mais
parce que déjà, c'est un sport de
judo, on peut peut-être pas en faire tout le temps. Hein.
Non, ben oui, il y a un âge.
C'est plus compliqué.
Alors qu'on ne peut pas pratiquer très longtemps le tir à l'arc par rapport au judo, si vous voulez, au judo, quand on a 35 ans, mais maximum 40 ans, c'est un petit peu dur. Hein. Mm-hmm. Mais en tir à l'arc, on peut tirer toute sa vie. Hein.
Et vous organisez d'autres manifestations dans l'année? D'autres compétitions?
Non.
Il n'y a pas de grade en tir à l'arc.
Alors, au début, on peut avoir des flèches de progression, si vous voulez, comme un peu comme les ceintures noires. Si
oui,
vous voulez.
Oui, c'est ça.
On passe de la jaune à la bleue. À la... Mm-hmm.
Bon, Vanessa, on a parlé donc de l'olympisme. C'est quoi les infos depuis 15 jours sur le plan olympique? J'ai vu que tu as un très beau timbre. Oui. Là, il a été. Ça y est, on l'a dévoilé, on connaît les médailles, on connaît les affiches et on connaît maintenant les timbres.
Exactement. Ouais,
elles m'ont fait cadeau, c'est gentil.
Voilà. c'est ton cadeau. Ouais. Alors oui, ce timbre, il a été dévoilé le 26 mars en présence de Tony Estanguet et puis d'Amélie Oudéa-Castéra. Donc, comme tu peux le voir sur ce timbre, on
J'aime bien les couleurs.
Voilà, des très belles couleurs, hein, du rose, du bleu, du doré. Il y a la Tour Eiffel qui est représentée, la scène.
Oui, bah, comme sur les médailles, pareil. Hein,
exactement.
Et comme sur l'affiche.
Et puis, on a aussi un cœur, on a une piste d'athlétisme et une balle qui rebondit. On est dans le style néo-art déco, un peu comme les pictogrammes quand ils avaient été présentés. Mmh. Et puis, il y a plusieurs références également sur ce timbre aux couleurs de Paris 2024. Moi, je l'ai trouvé joli. Hein. Il y a aussi des timbres avec la mascotte, mais celui-là, c'est vraiment le timbre. Et puis,
officiel, quoi.
Voilà, le timbre officiel de Paris 2024, et il est dans les bureaux de poste depuis le 5 avril.
Donc, OK. Alors, il y a eu aussi la semaine olympique et paralympique. Je sais que ça a très, très, très bien fonctionné. Hein. Il y a eu beaucoup d'actions faites pour cette semaine. Et puis, aussi, en Seine-Saint-Denis, ça bouge pas mal. Hein.
En Seine-Saint-Denis, ça bouge pas mal. On était à la conférence de presse sur la billetterie solidaire, justement le 26 mars. Donc, pour la Seine-Saint-Denis, donc, a décidé d'offrir à ses habitants au total 180 000 billets gratuits.
Ça,
il y aura
bien, ça.
150 000 billets pour les compétitions olympiques et paralympiques, et puis 28 000 billets pour la cérémonie d'ouverture sur les quais. Il y a une répartition qui s'est faite entre les différents acteurs, le département, la pleine commune, la métropole du Grand Paris. le Grand Paris. Il y a plusieurs acteurs qui sont engagés, évidemment, pour justement ce don de billets offert aux habitants, donc l'État, les communes, etc. Ça a été une répartition entre les différentes villes, voilà.
Et puis il y a eu la fameuse piscine maintenant,
la fameuse piscine
en face
aussi.
Du Stade de France.
Exactement, le centre aquatique qui a été inauguré jeudi dernier. Mm-hmm. Bon, il y a eu quelques petits incidents.
Oui, quand le président de la République se déplace, il se passe toujours quelque chose. Hein.
Et là,
il y a des malaises, il y en a qui tombent du perchoir. Enfin bon, bref, mais rien de mal. Mais c'est devenu un héros maintenant. On voit toutes les photos. Hein.
On a eu des fuites d'eau.
Oui, en plus.
Et un plongeur, malheureusement, qui est aussi qui est tombé.
C'est une star maintenant. Hein.
Et puis, juste pour revenir un petit peu sur la billetterie solidaire, juste pour dire que s'il y a aussi ces billets qui sont offerts, c'est aussi parce que les habitants de Seine-Saint-Denis ont été beaucoup impactés par les travaux. Donc, le maire de Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, a estimé que c'était un juste retour des choses, justement. Voilà.
Tu voulais dire quelque chose, Alexandre?
Juste une petite question rapide.
Après, on va passer à la musique, parce qu'il y a le foot derrière.
Ouais, pas de souci. Parce que, comme je l'ai dit, j'aimerais bien m'initier, mais c'est quoi pour vous la principale qualité qu'il faudrait avoir, qui est indispensable pour réussir au tirage?
L'assiduité.
Et il faut parler devant le micro, Michel.
L'assiduité.
Voilà, vous êtes à la radio.
Ouais. L'assiduité.
Ouais, d'accord, très bien. L'assiduité, donc voilà. Allez, on va écouter, je crois que c'est Vanessa Paradis, Joe le Taxi. Et ensuite, on va rester dans le domaine olympique, mais on va revenir sur la cérémonie de tirage au sort, concernant les tournois olympiques hommes et femmes. On a deux belles interviews à vous passer. Mais d'abord, Vanessa Paradis, Joe le Taxi.
Bienvenue, c'est Joe.
Toujours
Allez, comme promis, Michel, vous aimez le sport en général, vous aimez le foot, hein ?
J'aimais le foot.
Ouais.
J'étais supporter, quand, parce que je suis de Reims, j'étais supporter de l'équipe de Reims.
Très bien. Ok, bah vous savez qu'il y a à peu près 15 jours, un peu plus de 15 jours, il y a eu les tirages au sort hein, concernant le tournoi olympique. Alors certes, c'est peut-être pas le sport majeur aux Jeux olympiques, mais enfin, bon, c'est quand même un tournoi important où on peut voir certains grands champions. Alors on va rappeler que le tirage au sort chez les hommes a donné la France, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, et puis il y aura donc un représentant soit de la Guinée, soit de la zone Asie, hein, puisqu'il reste un match de barrage à jouer. Et chez les femmes, eh bien, on aura la France, la Colombie, le Canada, qui est l'équipe championne en titre, et la Nouvelle-Zélande. Alors, bah, écoutez, on est allé interviewer certains entraîneurs, quelqu'un qu'on ne présente plus. Il est une icône du foot français. Il a été très longtemps le meilleur buteur de l'équipe de France, hein, avant d'être détrôné par Olivier Giroud. C'est Thierry Henry. Et vous allez voir, Thierry Henry, même dans ses réponses, il est parfois un petit peu évasif. Il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas trop l'équipe qu'il va aligner. On écoute donc le sélectionneur de l'équipe de France Espoir.
Quel est votre premier sentiment après ce tirage pour votre équipe ?
Juste, on peut avancer, savoir contre qui on va jouer. En général, tu essaies de ne pas organiser des matchs pour déjà contre une équipe que tu vas rencontrer dans ta poule. On ne savait pas qu'on allait tomber contre les États-Unis, on essaie de trouver des équipes. Je pense que les deux équipes, de toute façon, seront différentes au moment de l'affrontement. Donc voilà. Mais on peut commencer à travailler, voir un peu plus clair. Bien sûr, il manque encore il manque une équipe dans cette poule. On verra bien qui va rentrer dans la poule. Mais voilà, on va devoir étudier, regarder ce qu'il y a à faire, le chemin qu'il y aura à prendre après. Ça sera plus tard. Si on sort, on sort bien sûr des poules. Mais enfin, on peut se tourner sur quelque chose d'un peu plus concret.
Ce que j'allais vous dire, là on est dans le concret quand même. On est au siège des Jeux de Paris. Ça y est, c'est parti quoi.
Oui, ça c'est clair. L'engouement... quand vous voyez le monde qu'il y a pour le tirage masculin et le tirage des femmes aussi, donc c'est beau à voir. Maintenant il y a quelque chose à préparer, il y a un chemin à parcourir qui va être long. Si vous regardez sur les dernières compétitions, c'est pas facile d'aller chercher les Sud-Américains. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une compétition qui leur tient à cœur, à nous aussi sur celle-là. Mais il y aura un travail à effectuer, à visualiser. Comme je l'ai dit, je n'ai pas peur de le dire, on a visualisé l'or, on visualise l'or. Mais il y a un chemin à parcourir, ça ne va pas être évident. Et quand vous savez très bien que sur les dernières compétitions, je le répète encore, les Sud-Américains, ils ont un petit truc en plus.
Thierry, c'est possible ?
Tout est possible. La liste est large. Donc voilà, c'est pareil pour tout le monde. Donc vous me posez cette question, je réponds. Moi, je n'ai jamais cité de nom, personnellement. Donc vous m'avez parlé de pas mal de joueurs que je ne citerai pas toujours non plus. Et tout est possible et on verra bien ce qui sera possible à la fin.
Tu seras connu quand ?
On verra bien, je ne peux pas vous dire. Il y a beaucoup de oui et de non, je ne sais pas si vous connaissez les raisons. Donc c'est un peu dur.
Mais vous avez dit que vous connaissiez déjà les profils, les postes entre guillemets. Est-ce qu'il fait partie de ses profils, de ses postes ?
C'est de connaître les équipes espoirs qui vont être alignées aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez déjà commencé à analyser
Oui, mais tout peut changer de par les trois au-dessus de l'âge, des joueurs qui arrivent. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Des joueurs peut-être qui ont été appelés aussi dans leur sélection, qui n'ont peut-être pas fait les qualifications parce qu'ils avaient besoin d'aller au-dessus. Donc... essayer de regarder un style de jeu qui peut changer. Il y a des coachs qui sont arrivés aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui vont changer. Et aussi pour nous.
Voilà pour Thierry Henry, vous avez vu, hein, il est un petit peu évasif sur certaines réponses. En tout cas, Thierry Henry, il va être aidé par son président, donc Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot, qui nous a dit carrément qu'il allait faire du porte-à-porte.
On est fixé président. sur les poules des garçons et des filles pour ce tournoi olympique. Votre premier sentiment par rapport à ça?
Bah d'abord, je suis très content qu'on connaisse nos adversaires, parce que voilà longtemps qu'on attendait que ces jeux démarrent. Et d'une certaine manière, pour nous, en ayant le nom de nos adversaires, chez les garçons comme chez les filles, d'une certaine manière, c'est le coup d'envoi des Jeux Olympiques en ce qui nous concerne. Dans deux tournois qui vont être très difficiles, les filles, le plateau est très relevé. C'est vraiment les meilleures équipes du monde qui sont là. Chez les garçons, on a un groupe, je pense, très homogène. On va rencontrer deux fois la Nouvelle-Zélande, donc ça sera une double confrontation. Puis chez les filles, on aura les championnes olympiques aussi en titre, les Canadiennes, qui ne nous ont pas toujours bien réussi dans ces types de tournois olympiques. Donc voilà, mais je crois qu'on est ambitieux depuis le départ. On a chez les garçons comme chez les filles deux équipes qui seront compétitives. Et donc notre ambition reste la même, comme avant le tirage, c'est-à-dire d'aller à minima sur le podium. Et puis, si possible, renouer avec un titre olympique qui nous a fui depuis 40 ans chez les garçons et qui, chez les filles, serait notre premier très grand titre et qu'on attend aussi pour le football féminin.
Une ambition chez les garçons, mais on le sait, c'est compliqué parce que ce n'est pas une date FIFA. Il va falloir que vous preniez votre bâton de pèlerin un peu pour aller voir les clubs. Est-ce que vous avez prévu d'aller faire un tour du côté de Madrid, par exemple? On sait que le président Pérez, apparemment, vous a confirmé qu'il ne voulait pas, à l'instant T, libérer ses joueurs en vue du tournoi olympique.
Bon, moi, je respecte le Real Madrid. C'est peut-être un des plus grands clubs du monde. Donc, je respecte leur position. Maintenant, je pense aussi aux joueurs. Tous les joueurs, y compris les Français qui jouent au Real Madrid actuellement, c'est des joueurs qui veulent participer au rêve olympique. Et les carrières de joueurs sont courtes. L'occasion de participer à un tournoi olympique chez soi, à domicile, c'est rare. Et donc, je voudrais que, au-delà des contingences de calendrier que je comprends, j'aimerais effectivement convaincre ces présidents de clubs qu'ils doivent permettre que le rêve olympique s'accomplisse pour leurs joueurs.
Vous allez vous impliquer directement, vous allez faire du porte-à-porte avec les clubs étrangers qui pourraient avoir des joueurs?
Vous savez, on l'a déjà commencé à le faire avec les clubs français. Je les remercie d'ailleurs pour l'accueil qu'ils nous réservent, parce que je pense qu'il y a une vraie mobilisation dans les clubs français, une vraie prise de conscience qu'on est dans une mission d'intérêt général. Et puis, dès que Thierry Henry aura de plus en plus affiné sa liste, eh ben, on va effectivement faire du porte-à-porte pour convaincre les clubs étrangers. C'est difficile, mais essayer de les convaincre que leurs joueurs ont envie de vivre le rêve olympique et que la France, chez elle, a envie d'avoir une équipe qui fasse rêver les Français.
Merci à vous.
Voilà, 40 ans après, ce serait beau. Hein. Alexandre, tu crois qu'il va y arriver, le président, à faire venir les grands joueurs en venant à la rescousse de Thierry Henry?
Ça va être très, très compliqué.
Ça va être compliqué,
mais
hein.
avec beaucoup d'intelligence dans ses propos, oui, il peut essayer de convaincre les présidents de club, je pense.
Très bien. Allez, on va écouter maintenant Hervé Renard. Alors, comme je vous l'ai dit, Hervé Renard, il quittera la sélection des Bleus donc après 2024. Il ne veut pas donc vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Il estime que par respect par adversaire, on ne doit pas dire que c'est un groupe relativement facile. Mais il avoue quand même que c'est à travers cette épreuve de qualificatif au championnat d'Europe que l'équipe de France arrivera donc à un certain niveau. En tout cas, est-ce que Hervé Renard est excité à l'épreuve donc olympique? Sa réponse tout de suite.
La maison de l'Olympisme, c'est futur jeu, qu'est-ce que ça fait?
Ah, c'est beau, c'est un honneur déjà d'être à la tête d'une équipe de France qui participe aux Jeux Olympiques. C'est même plus que ça, c'est un grand honneur pour moi. Et ça fait bientôt un an que je suis avec cette équipe de France féminine. Et je le répète sans arrêt, je le dis avec mon cœur, elle mérite quelque chose. Mais entre mériter et aller chercher, il y a une grande différence. Donc à nous maintenant de donner le maximum de nous-mêmes pour aller chercher le plus beau des métals, on va dire.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour se hisser plus haut?
Encore progresser. En disputant cette finale de la Ligue des Nations, c'est la première finale continentale que le football féminin disputait. Alors pour certains, on n'a pas gagné, mais c'était pas assez. Mais c'était pourtant la première finale que le football féminin français disputait. Donc c'était déjà une belle marge de progression. Ben maintenant, il faut aller chercher mieux que ce que l'équipe de Bruno Bini a fait, c'est-à-dire quatrième pour des Jeux Olympiques. Donc faire mieux que ça, c'est aller chercher une médaille, voilà, dans un premier temps.
Merci.
Qu'est-ce que vous pensez du nouveau maillot ?
Magnifique. En toute sincérité, je le trouve magnifique.
Effectivement, ils sont beaux ces maillots, hein, ces nouveaux maillots de l'équipe de France, hommes et femmes. Allez, quelqu'un qui, lui, garde un souvenir impérissable de son titre de champion olympique, c'est celui qu'on avait appelé Monsieur Zou, donc Daniel Zereb, qui a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain et puis de Lens. Alors c'est vrai que on dit que le tournoi olympique de foot, c'est pas donc un trophée majeur donc pour un footballeur. Eh bien lui, Daniel Zereb, en tout cas, c'est pas le cas. Il en garde un souvenir ô combien donc impérissable. Et puis on va se rappeler que cette équipe de France, elle était partie, comme il nous l'a dit, sans ambition. Et ensuite, eh bien, tout s'est bien passé. Daniel Zereb.
Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour notre sélectionneur Henri Michel, qui est parti très tôt et qui a créé l'état d'esprit de cette équipe de France olympique créée en 82. Voilà. Je tenais à le remercier parce qu'il a été notre sélectionneur et après il est devenu notre ami.
Qu'est-ce que ça fait 40 ans plus tard de voir ces Jeux à Paris et une équipe masculine et féminine, les deux équipes qui tendent à vous succéder tout simplement?
Eh ben, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Nous, on a vécu des moments extraordinaires avec cette équipe, avec cet état d'esprit qu'on avait. On est allé au bout. J'espère que l'équipe, ces deux équipes de France auront les moyens d'aller jusqu'au bout. Le tirage, je dirais qu'il n'est pas défavorable, qu'on devrait passer ces préliminaires. Ensuite, bien sûr, le public étant là, je pense qu'il y a de quoi se transcender.
Racontez-nous le football au jeu, c'est comment? Quel souvenir aujourd'hui vous en gardez?
Écoutez, nous franchement, on est partis là-bas avec un état d'esprit de participer. Je vous dis sincèrement, cette équipe s'était peaufinée depuis 1982. On est allé là-bas sans prétention plus que ça. C'est comme si on était allé faire un tournoi de 6 avec des copains. Et on s'est pris au jeu. Les résultats se sont révélés positifs. On est monté en puissance. Et après, quand on a éliminé, qu'on s'est vu aller à Los Angeles pour faire les phases finales, on s'est dit, bon, maintenant on va jusqu'au bout. Et non sans mal, puisqu'il y avait des belles équipes. On a éliminé quand même la Yougoslavie, le Brésil, le Chili. C'était des superbes équipes de football. Mais on a assuré aussi notre niveau et on est allé jusqu'au bout. Et 40 ans après, on en reparle comme c'était notre meilleur souvenir.
Ça fait quoi d'avoir la médaille justement autour du cou de champion olympique? Vous l'avez
dans la poche? Ah oui, je peux vous la montrer, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, elle est un peu abîmée parce qu'on l'a beaucoup sortie. Mais bon, c'est un rêve de gosse. J'ai eu la chance de côtoyer Carl Lewis, Mahmoud, des vignerons, des champions olympiques de toutes les disciplines. Et ça, c'est fantastique parce que on a toujours été confinés dans le milieu du football et là on s'est ouvert à d'autres sports et on avait vraiment une âme, nous, d'amateurs. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout.
C'était plus facile de vous libérer apparemment à l'époque.
Oui, bah, les clubs n'ont pas eu de problème pour nous libérer, mais c'est vrai que bon, calendrier FIFA oblige. Maintenant, il y a tellement d'intérêts qui rentrent en ligne de compte que ça doit être plus compliqué pour les clubs.
J'allais vous dire, justement, le football, il a changé. Vous êtes allé en tant que bande de copains, tournoi de sixte. Voilà. Maintenant, il y a des enjeux. Limite, c'est une cause nationale pour que les équipes féminines et masculines remportent ces jeux. Quel message vous avez envie de transmettre, justement, à ces joueurs et à ces joueuses?
De ne pas se mettre une pression insurmontable. Il faut aborder ces Jeux comme un événement certainement exceptionnel, mais le plaisir, avant tout le plaisir du jeu, l'amour du sport qu'ils pratiquent et écouter bien entendu les consignes de leurs entraîneurs, de les respecter, et tout peut bien se passer, il n'y a pas de problème. Je leur souhaite tout le bonheur du monde.
Ils n'ont peut-être aussi pas conscience que ce que ça représente, les Jeux. Vous l'avez dit, c'est quand même un moment particulier pour un sportif, qu'on soit footballeur ou non d'ailleurs.
Alors regardez, 40 ans après, quand quelques supporters me croisent dans la rue, ils me parlent, la première chose dont ils me parlent, c'est des Jeux Olympiques de 84. Bon, je parle des personnes de plus de 65 ans hein, quand même, hein, voilà, ça reste gravé dans les mémoires. Et puis, c'est l'état d'esprit des Jeux qui est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans ce sport, on le sait. Pour une fois qu'on peut mettre en évidence uniquement le jeu, c'est fantastique.
Merci beaucoup.
Voilà, plaisir.
Voilà, puis pour la petite histoire, l'équipe de France, elle avait battu le Brésil 2-0. Donc vous voyez déjà, c'était déjà précurseur d'un autre succès qui est arrivé 14 ans plus tard. On va écouter une icône du foot aussi, Didier Drogba. Lui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais vous allez voir, il a beaucoup de regrets de ne pas avoir imité Neymar et Messi en ayant été donc champion olympique. Par contre, il a porté la flamme donc à Londres. Didier Drogba. Didier, donc ces Jeux Olympiques, vous allez les suivre avec passion?
Ah, je vais les suivre avec passion et je serai, je pense, sur certains matchs. Je suis pressé de rentrer et puis prendre mes billets parce que je pense que ça va aller vite quand on voit la qualité des deux tournois masculins et féminins. Je pense que les stades seront pleins, donc ça va être de beaux matchs.
Il y a déjà trois équipes africaines chez les hommes dans cette compétition. Tu vas les suivre de près et comment tu les vois justement dans la finale?
Bah, j'espère qu'elles vont bien figurer, mais pas simplement bien figurer, mais qu'elles vont être capables de rivaliser avec les meilleures équipes de ce tournoi. Elles en font partie, donc elles ont toutes leurs chances. Et pourquoi pas avoir une équipe africaine porter haut le drapeau du continent, comme ça a été le cas du Nigeria face au Brésil il y a maintenant quelques années.
Didier, vous avez porté la flamme en plus en 2012. Hein.
Oui.
Ça reste un moment fort.
Quelle fierté, quel honneur.
C'est quoi la relation au jeu, Didier? Parce que, est-ce que c'est un regret pour vous de jamais les avoir disputés en tant que joueur?
C'est une relation particulière parce que plus jeune, j'étais vraiment intéressé par tous ces sports d'athlétisme. À l'école, j'étais assez performant dans tous ces sports, que ce soit le saut en longueur, saut en hauteur, triple saut, lancer de javelot. En fait, tous les sports olympiques m'intéressaient. Moi, bon, j'étais moins bon en tout ce qui était course, marathon et tout ça. Mais c'est pour vous dire ma passion non seulement pour les Jeux, mais pour le sport en général. Donc, j'ai eu la chance de suivre quelques Olympiades à la télé. Et dont Barcelone, dont celle aux États-Unis, je crois que c'était Atlanta. En Australie aussi, ça a été, voilà, et ça a été de grands moments à chaque fois avec des performances incroyables. Par exemple, un Carl Lewis qui remporte son titre sur le 100 mètres, un Usain Bolt qui détruit le 100 mètres et le 200, Michael Johnson. Je peux vous citer tous les athlètes, vraiment, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, content de pouvoir enfin vivre des Jeux en présentiel.
Et puis Neymar, Messi ont été champions olympiques.
Pardon.
Neymar, Messi ont été champions olympiques.
Et pas Drogba. Ah ouais. Voilà.
Comment vous ressentir les sportifs pour ces Jeux olympiques ou bien pour les Jeux olympiques en général?
Tout d'abord, la fierté de représenter son pays sur un tel événement qui est mondialement retransmis. Et puis ensuite, il y a la fierté pour ceux qui remportent d'avoir la médaille olympique. C'est très important. Je pense qu'en termes de visibilité, il y a, je crois, d'abord la Coupe du Monde et juste derrière ou juste avant, je sais pas, en tout cas, il y a une vraie compétition entre les deux.
À égalité,
et ça peut se comprendre parce que on vit à chaque fois des spectacles de qualité. Voilà.
Très bien, merci Didier. Ouais, merci à Didier Drogba, immense monsieur et immense champion. Tiens, une autre icône, cette fois-ci du sport français, c'est Marie-Jo Pérec. Alors, on lui a demandé à Marie-Jo, bon, d'abord, elle aime le foot parce qu'elle a une grande complicité avec Thierry Henry. Puis, on lui a demandé si elle allait être porte-drapeau.
Quelles sont les émotions de ce tirage au sort?
Non, c'était plutôt un moment sympathique. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, moi, je me dis, enfin, vous imaginez, Est-ce qu'on imagine en fait le foot, ça va être dans la France entière. Enfin, les jeux ne s'arrêtent pas en fait qu'à l'athlée, qu'à la natation et surtout en fait ces épreuves-là seront en fait vont se dérouler dans toute la France. Donc en fait, ça montre aussi aux gens que en fait les jeux, ça n'est pas une affaire parisienne. C'est sur tout le territoire dans le sud de la France. Donc moi, j'embrasse totalement le fait que, qu'on puisse venir soutenir cette belle équipe de France. Et puis, moi, j'ai une petite
publicité avec Thierry Henry.
Oui, c'est ça. Enfin, je le connais depuis longtemps. Enfin, je les voyais en fait évoluer lorsqu'ils étaient à Monaco, gamins. Donc, il y a une petite histoire, et je suis très fière que ce soit lui en fait notre sélectionneur. Donc, je viens encourager et accompagner. Voilà.
Qu'est-ce que ça représente pour l'Olympisme?
Mais qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'est le plus bel événement de la Terre, en dehors que cet événement en fait, a marqué ma vie. Enfin, c'est le seul événement au monde où en fait, la jeunesse mondiale se retrouve dans le partage, dans l'émotion, dans la fraternité. Donc, ces 15 jours, on aimerait en fait, que ces 15 jours ressemblent en fait, à ce que le monde... puisse vivre quoi. Donc
porte-drapeau alors.
Alors tout le monde
ça sera un beau point. Pose,
hein. Tout le monde me pose cette question de je sais pas et si je savais je vous le dirais pas non plus. mais je ne sais pas, franchement je ne sais pas.
Il y a quand même Thierry Henry qui vous remercie, qui parle de vous comme un bébé. Ça vous fait plaisir d'entendre ça sur scène devant tout le monde?
Oui, ça me fait plaisir parce que le football c'est un sport universel, enfin c'est populaire, donc d'entendre Didier me dire il me suivait, ça me touche beaucoup, et quelque part je me dis mais j'ai peut-être pas perdu mon temps, hein.
Les porte-drapeaux, la façon aujourd'hui de désigner les porte-drapeaux, est-ce que ça vous interpelle quelque part?
Non, moi je pense que c'est bien que ça soit comme ça, non? Vous pensez pas? Moi j'ai le sentiment que en fait qu'il faudrait que ce soit un homme, une femme, qu'il faudrait que qu'il y ait peut-être quelqu'un qui vient des sports co, quelqu'un qui vient en fait d'un sport individuel. Je pense que ça serait bien. Alors après, moi, peut-être que je prendrais pas un tout jeune, je prendrais en fait quelqu'un qui a déjà été champion olympique, qui a les épaules en fait pour porter cette belle équipe de France. Et franchement, je crois que dans cette belle et grande équipe de France, on a des hommes et des femmes qui sont capables d'avoir cette belle place. Alors, moi, je ne vais pas me prononcer parce que je ne suis pas dans l'équipe de France et je ne vote pas. Et je pense que c'est les athlètes, en fait, qui devraient voter pour leur tête de file. Voilà.
Vous allez remettre les pointes encore pour cette Olympiade à Paris?
Ah ben, j'adorerais. J'adorerais.
Immense championne, Marie-Jo Pérec, hein, 3 titres olympiques. Allez, on va finir avec celui qu'on a régulièrement à ce micro, c'est Tony Estanguet, le président du COJO, ravi de ce mélange d'un soir de l'olympisme et du monde du foot. Allez, Tony, ça y est, on sait tout sur le tournoi de foot.
Ouais, c'est génial, effectivement, nouvelle étape de franchie, on est ravis, c'est très excitant. Tout ça devient très concret, là, et c'est vrai qu'on a hâte, que les matchs commencent. On a de beaux matchs d'ouverture, hein, ce France-États-Unis et ce France-Colombie chez les filles à Marseille pour les garçons le 24 juillet à 21h et les filles le lendemain le 25 juillet à 21h à Lyon. Ça promet de très beaux matchs pour bien rentrer dans le tournoi.
Et puis c'est bien ce mélange de l'olympisme et du foot.
Ouais, c'est formidable, effectivement. Le foot est très important au jeu parce que c'est le sport où il y a le plus de spectateurs. C'est le sport qui permet d'engager tout le pays. On a des grands stades, des beaux stades à Nantes, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, à Saint-Étienne, à Lyon. et bien évidemment au Parc à Paris. Donc c'est vrai que ça, ça permet d'avoir une vraie dimension nationale. 58 matchs, on l'a vu, un tournoi féminin extrêmement relevé. Je pense que chaque match va être spectaculaire. Donc on veut vous voir nombreux dans les stades parce que ça va être, je pense, de belles opportunités. Et puis on a la chance, il reste des places dans tous les... dans tous les matchs.
Oui, parce qu'il faut dire que ça y est, maintenant, il y a des places en vente dès ce soir.
Dès ce soir, maintenant qu'on a fait ce tirage au sort, on a 1 million de places à la vente sur les 58 matchs. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Et à des prix honnêtes.
À des prix très accessibles, à partir de 24 euros pour tous les matchs. Pour les matchs de l'équipe de France, ça commence à 30 euros. Et ce sera aussi le cas pour les quarts de finale à partir de 30 euros. Donc c'est vrai qu'aller au jeu à ces tarifs-là, avec des niveaux de performance de ce niveau-là, n'hésitez pas, c'est sur ticket.paris2024.org et c'est à partir de maintenant.
Et puis on va rappeler qu'au niveau du foot, des grands champions l'ont gagné, Neymar, Messi entre autres.
Ouais, la légende des Jeux, c'est aussi avec le foot. Toutes les grandes légendes du foot ont participé aux Jeux et c'est vrai que bah, c'est formidable, même en France, on l'a vu, hein, les Kylian Mbappé, les Antoine Griezmann, les Giroud... récemment Karim Benzema. Donc c'est formidable de voir que ces grands champions qui ont tout gagné, qui n'ont pas forcément besoin des Jeux, déclarent leur amour et leur flamme pour les Jeux. Donc on a hâte de voir ces deux équipes de France.
On a hâte d'être aux Jeux, hein. Il reste 4 mois, on a tout le monde hâte.
128 jours, ça arrive vite.
Il y a un engouement pour les Jeux.
Oui, nous on est effectivement, on a des indicateurs qui sont très prometteurs parce que on l'a vu sur la billetterie, on l'a vu sur le programme des volontaires, on a eu 300 000 demandes, on le voit globalement, il y aura des fan zones dans 200 villes un peu partout dans le pays, donc il y a quand même des indicateurs qui sont très positifs et vraiment l'arrivée de la flamme qui va être allumée à Olympie le
Voilà, elle sera donc allumée à Olympie. Ensuite, elle arrivera en France, donc à Marseille, la ville que connaît bien Vanessa, le 8 mai. Allez, Stéphane, bonsoir.
Ouais, bonsoir, Philippe.
Voilà, on a 15 petites minutes donc, pour faire le bilan foot de cette quinzaine. Alors, très brièvement, d'abord, on s'était quitté il y a 15 jours après donc, la défaite de l'équipe de France contre l'Allemagne. L'équipe de France a battu le Chili 3-2. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'enseignements de ce match, même si on a vu un très bon Kolo Muani.
Ouais, tout à fait, on a vu ça, mais bon, moi pour moi, comme je l'avais dit, pensé depuis le début, c'est des matchs complètement inutiles, ça sert strictement à rien de faire ces matchs, c'est mon avis. Maintenant, effectivement, il y a deux équipes différentes, à part le fait que Kylian Mbappé a joué les deux matchs, pourquoi ? Parce que pour être bon, je vois pourquoi il a joué les deux matchs, quoi, mais bon. À part ça, moi, personnellement, je retiens rien du tout de ces matchs. Quoi.
Voilà. Alors, autre événement important, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France. Ça sera un remake de la finale de 2008, hein, puisque Lyon a très largement battu Valenciennes 3-0. Et puis, victoire aussi, somme toute, assez tranquille du Paris Saint-Germain devant Rennes 1-0. Donc, ça sera un remake de 2008 entre le PSG et Lyon le 25 mai, donc à Lille.
Ouais, tout à fait. Voilà. Bah, ça va être... à Lille, ce qui est l'originalité de cette finale. Donc, un petit peu moins de monde. Hein, ça vaut surtout pour les supporters, notamment, hein, qui ne pourront pas y aller peut-être autant qu'ils veulent, parce que c'est quasiment la moitié, hein, la contenance du Stade Pierre-Mauroy. Donc, voilà, bah, deux équipes, de toute façon, qu'on attendait, finalement. Oui. C'est une des premières fois, souvent, quand on a des... Je ne sais pas si vous rappelez, mais si on regarde dans le passé, à chaque fois qu'on a des demi-finales comme ça, où on se projette vers des finales... logique, et ben bien souvent c'est contrarié, quoi. Donc là, effectivement, quand il y a eu le tirage des demi-finales, tout le monde s'attendait plutôt logiquement à cette finale, et c'est finalement ce qui va arriver. C'est une chance incroyable pour l'Olympique Lyonnais, qui en plus marche bien en ce moment en championnat, qui a aujourd'hui deux possibilités pour jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est-à-dire ou remporter la Coupe de France ou terminer 7e, puisque si le seul club de Ligue 1 qui est sûr et certain en cas de 7e place de jouer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est le cas pour personne d'autre.
Effectivement, hein, si le PSG fait le doublé, ben, on pourra aller jusqu'au 7e pour aller décrocher un billet européen. Justement, le billet européen, donc, eh bien, il est toujours aussi serré, hein, après cette 28e journée, même si le PSG, on sait, sera champion de France, hein, après sa victoire à Marseille la semaine dernière 2-0, et puis son match nul de ce week-end au Parc des Princes 1-1. Mais derrière, c'est très très serré, d'autant plus que Marseille s'enfonce un peu plus en étant abattu à Lille 3-1, nul entre Lens et Le Havre 1-1.
Brest a battu Metz dans un match assez euphorique au niveau des buts. Hein, 4-3, match nul entre Reims et Nice 0-0. Et puis Monaco qui a battu Rennes 1-0. A noter aussi que Montpellier a battu Lorient 2-0 et nul entre Toulouse et Strasbourg. Et enfin, victoire de Lyon, donc à Nantes 3-1. On va quand même rappeler que Monaco est sur une série de 6 matchs sans défaite. Hein, donc,
voilà.
Ouais, donc, c'est l'équipe du moment.
Oui. Paradoxalement, n'avait pas gagné à Louis II depuis le 3 décembre.
Oui, c'est ça.
Depuis, ça fait, si je compte bien, ça fait 4 mois, c'est ça.
Ouais. C'est ça. Alors, on va dire, donc, dans le championnat, donc PSG, bon, ça y est, c'est fait. Le titre, il est pratiquement acquis, 63 points. Devant Brest, donc, qui est à 10 points, deuxième, 53. Par contre, derrière, on va voir que c'est très serré. Troisième, Monaco, 52. Quatrième, Lille, 49. Cinquième, Nice, 44. Et sixième, Lens, 43. Et puis, on va noter que Marseille et Rennes sont à 4 points de Lens. Reims est à 3 points. Et Lyon est à 5 points. Donc, tout est possible, hein, encore Stéphane, pour aller chercher cette fameuse 7e place de Ligue Europa.
Ouais, voilà, surtout
conférence.
Tout est possible, mais moi, ce week-end, il y a quand même eu quelques petites tendances fortes qui se sont dégagées, quoi. C'est-à-dire le PSG, bon, ça c'est pas ce week-end, mais Brest, Monaco et Lille qui feront 2, 3 et 4, quoi, dans l'ordre. L'ordre, on ne sait pas encore exactement l'ordre. Et puis après, Lens et Nice qui sont encore pour la cinquième, qui se battent pour la cinquième, sixième place avec avantage. Et puis derrière, des équipes qui peuvent encore espérer. Maintenant, on est à 6 journées de la fin.
Oui, hein, c'est ça, 6 journées. Hein.
On est à 6 journées de la fin. Ça veut dire que des équipes comme Lille et Monaco, par exemple, même si Monaco nous a un petit peu habitués à être capables un peu du pire et du meilleur et du pire, ces équipes-là, moi, je ne les vois pas perdre 5 points sur 5 points dans les 6 derniers matchs, dans les 6 dernières journées, surtout que les calendriers. Ce qui est assez fou, c'est quand on regarde le calendrier, Philippe, on s'aperçoit que quasiment toutes les équipes, en fait, elles vont se rencontrer.
Oui, il y a c'est pas bien, mieux pour nous.
Exactement, étudier le calendrier que les supporters, tous ceux qui nous étudient pour un club, le calendrier, essayer de se dire, bah tiens, eux, ils ont quand même un calendrier nettement plus facile que les autres, c'est compliqué, parce que Lens va jouer Marseille, par exemple, Marseille va jouer Lens et Nice, Lens va jouer Marseille, peut-être Monaco, je ne sais plus là en tête exactement, mais quoi, tous, Lyon, par exemple, on parle de Lyon qui est bien remonté. Vous savez, les 4 prochains matchs de Lyon, ce que c'est Brest, Paris Saint-Germain, oui. Lens et Lille, je crois.
Oui, c'est ça. Pratiquement toutes les équipes de tête, quoi. Je crois qu'il n'y a que les 2 derniers matchs où on joue des équipes un peu moins bien.
Voilà, mais c'est un peu le cas de tout le monde. Mais dans les 4 prochains matchs, dans les 4 prochaines journées, tout le monde, vous allez avoir peut-être du Monaco-Lille, quoi, je ne sais pas. Mais oui, je crois qu'il y a Monaco-Lille. Brest va aller partout, il y a aussi Reims qui met son grain de sel là-dessus. Les 6 premiers ne vont pas arrêter de se rencontrer dans les 4-5 prochains matchs. Quoi.
Alors, c'est aussi très serré en bas, mais ça, on le sait aussi. Hein. 14e, Le Havre et Nantes avec 28 points. 16e, Lorient, 26 points. Par contre, ça va être un petit peu plus compliqué pour Metz et pour Clermont. 17e, Metz donc avec 23 points. Et 18e, Clermont, 21. Mais pour la plage de barragiste, tout est possible là aussi, hein, Stéphane.
Ouais, tout est possible, bien sûr, pour la plage de Ravis. Bah, pour le bas de tableau, c'est un peu comme en haut. Hein.
Oui.
Reprendre. Bon, c'est sûr que les équipes de bas de tableau sont normalement celles qui présentent le moins de garanties. Donc, c'est peut-être moins compliqué pour Clermont de reprendre 5 points à Lorient que pour par exemple, Lens ou Nice, reprendre 5 points à Lille ou à Monaco. Mais c'est vrai que c'est là, on est quand même à 6 journées de la fin. Ça va bétonner dur, mais c'est vrai qu'entre eux, il y a quand même aussi de moins en moins de clubs quand même. Hein. Parce que, par exemple, pour les barrages, je n'ai pas le classement là sous les yeux, mais il y a Lorient, il y a Nantes, il y a Le Havre.
Oui, c'est ça, c'est l'équipe qu'on vient de citer, Nantes, Lorient, Le Havre.
Après, c'est tout de suite 3-4 points de plus.
Oui,
hein.
c'est ça. Metz est à 3 points de Lorient, donc le 16e, et puis Clermont, encore beaucoup plus loin, est à 5 points avec 21 points.
Voilà, au-dessus de Le Havre, au-dessus du Havre, par exemple, il y a Nantes, Le Havre.
Il y a un petit trou de 3-4 points, je crois. Oui, il y a un petit trou.
Et après, il y a une petite distance, Strasbourg, Toulouse, par exemple, pas du tout assurés encore de se maintenir, mais ils ont une petite marge de au moins 4-5 points, je crois, donc même peut-être plus pour Strasbourg d'ailleurs, donc ça s'est aussi un petit peu décanté, mais c'est normal, hein, on se rapproche de plus en plus des derniers matchs.
Voilà. Alors, en Ligue 2, il reste par contre 7 journées. Et là, c'est incroyable la remontée de Saint-Etienne, hein, qui a battu Châteauroux 1-0. Nul entre Angers et Laval, 1 partout. Rodez, je sais que c'est une équipe que tu aimes bien. Donc, 3-3 ouais. contre Quevilly-Rouen. Victoire de Bordeaux à Caen, 1-0. Et puis, le Paris FC qui peut jouer les playoffs. Alors que c'était une équipe qu'on voyait dans le ventre mou. Eh ben, le Paris FC qui a battu Grenoble 2-1. Ils sont pas très loin. Ils sont en embuscade au CRJ contre 3 à 20h45. Ouais. Oui, vas-y.
Tout à fait, Philippe. Moi, je vous le dis, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis qu'en Ligue 2, il y a toujours une équipe, mais ça sera que pour jouer les barrages, et c'est extrêmement difficile quand on joue les barrages de monter, quoi, surtout quand on part de loin, comme pourrait le faire le Paris FC. Mais il y a toujours une équipe qui remonte un peu derrière et qui se remet. Oui. Et là, il semblerait que ça soit quand même un peu le Paris FC qui est revenu à...
Ah, ils sont pas loin. Bah, je veux donner les classements. Auxerre est en tête, 58. Bon, ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour Auxerre. Angers et Saint-Etienne sont deuxièmes avec 54 points. Laval, quatrième, 49. Cinquième, Rodez, 47. Et le Paris FC, sixième, donc avec 46 points. C'est-à-dire qu'ils sont simplement à 3 points de Laval. Donc, ils peuvent terminer quatrième.
Voilà, ou à un point de Rodez. Donc, je crois qu'ils sont à un point
oui,
de Rodez.
Oui, c'est ça. Rodez, cinquième.
Terminé aussi cinquième. Ouais, ouais.
Tout est possible pour les playoffs.
Pour partir dans ce truc. Bon, maintenant, pour ce qui concerne Auxerre, il y a Auxerre 3.
Auxerre 3, ouais, tout à l'heure, 20h45.
Pour vous dire, pour avoir été à 3 le week-end dernier, je serais quand même très, très. Et puis avoir été à Auxerre aussi, je ne sais plus quand, mais dans la saison, je joue Auxerre. Ce serait quand même très, très surprenant que 3 arrive à faire un résultat. Et je pense que si Auxerre gagne, c'est la montée quasiment assurée. C'est 7 points, même s'il reste 6 journées, 7 points. Oui, 7, ça sera 7 points sur Angers. Ça sera combien de points? 8 points, non,
bah, ils ont 4 points sur Angers d'avance. S'ils gagnent ce soir, ils sont à 7 points d'avance.
Voilà. Ils seront à 7 points du 3e. Donc, ouais. Ça me paraîtra quand même être un immense pas fait vers la Ligue. Hein, ce qui serait d'ailleurs mérité, parce que je crois que sincèrement, c'est la meilleure équipe. Alors peut-être avec les Verts maintenant, mais sinon, c'est la meilleure équipe de Ligue 2 sans aucun problème.
Oui.
Et Paris FC a sa chance.
Oui, bien sûr.
On en parlait ensemble,
oui.
Comme Laval la saison dernière. Rappelez-vous qu'il y avait quand même un moment où ça s'est joué quand même à rien que Stéphane Gilly perde sa place. Hein, soit il y a eu un très très mauvais passage du Paris FC. Je ne sais pas si c'est cet automne, je ne me rappelle plus. Ils ont dû descendre 13e, 14e. Et Stéphane Gilly était menacé, était vraiment dans les coachs que beaucoup de présidents auraient décidé de se séparer de leur coach. Il est resté, puis bon, finalement, ils font des belles choses. Hein.
Ouais.
C'est vous qui les avez vu jouer, je crois que vous avez été
voir jouer
contre Saint-Etienne.
C'est ça. Bon, ce n'était pas le meilleur match qu'il y ait eu, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Allez, on va rappeler qu'en bas, ça se bat aussi. 17e, 3, 35 points. 18e, Concarneau, 33 points. 19e, Quevilly-Rouen, 29 points. Et 20e et dernier, donc Valenciennes, avec 20 points, qui est pratiquement condamné. Mais là aussi, il n'y a que 4 points entre l'AC Ajaccio, qui est 13e avec 39 points, et Dunkerque. Et 3, pardon. Et puis Dunkerque, 38 points, Bastia, 37 points, et Annecy, 36 points, peuvent aussi être menacés de relégation. Donc là aussi, c'est très serré. Hein. Voilà.
Et c'est très très serré.
Oui. Alors un petit mot pour le national. Là par contre, le Red Star, je pense, dans un match ou deux, aura définitivement assuré son maintien. Ils ont battu Niort 2-1. Martigues a battu Villefranche-en-Beaujolais 1-0. Et Versailles a pratiquement assuré son maintien en battant Dijon 2-0. Ce soir, il y a Sochaux donc, contre Nancy. Red Star en tête 59 devant Martigues Niort 49. Versailles est 10e avec Châteauroux 36 points. Puis un résultat qui nous intéresse, le Paris Atlético qui à 5 journées de la fin, peut encore monter 0-0 à domicile contre Bergerac. Le Paris Atlético est en embuscade. Ils sont 3e avec 35 points à 1 point de Libourne et de La Roche-Orion. Je voudrais qu'on finisse avec le championnat féminin. Il n'y avait pas de championnat ce week-end, mais rappelez quand même qu'en Coupe d'Europe, on aura deux équipes françaises. Hein, puisque
Ils vont s'affronter.
Ouais, Lyon-Paris-Saint-Germain et Chelsea-Barcelone, puisqu'on va rappeler que le PSG, après sa victoire donc à Aken 2-1, eh bien, s'est imposé assez largement au Parc des Princes 3-0. Et pareil pour Lyon, hein, qui s'est imposé 4-1 à domicile, après avoir gagné donc à Benfica 2-1. Donc c'est bien, on aura deux belles demi-finales, Lyon-Paris-Saint-Germain et Chelsea-Barcelone.
Voilà, puis une équipe française, donc en finale de la Ligue des Champions féminine, quoi qu'il arrive. Ce
sera c'est bien.
Lyon, bien sûr, mais ça peut être aussi Paris. Ça sera une des deux. Il faut rappeler qu'en championnat, au dernier match de championnat, à Lyon, je crois, hein, Lyon sauve les meubles à la dernière minute, je crois, en égalisant contre le Paris Saint-Germain. Donc, tout est possible. Quoi. Comme pour le championnat d'ailleurs, tout sera possible puisqu'il y aura des play-offs.
Oui, les quatre premières équipes. Ouais. Les quatre premières équipes pour les playoffs. Allez, on finit avec l'équipe de France, donc qui a donc il n'y avait pas de championnat ce week-end. Hein, Hervé Renard en parlait. La France a battu l'Irlande 1-0. Il lui faut maintenant battre la Suède et l'Angleterre dans les prochaines semaines pour espérer eh bien peut-être monter d'un ton, se qualifier pour l'Euro 2025 et puis surtout monter d'un cran pour jouer les premiers rôles dans le tournoi olympique.
Ouais, dans le tournoi olympique. Bon ben moi je suis peut-être de mauvais présage et mes 10 ans, mais je parierai pas grand chose sur les deux équipes de France aux Jeux Olympiques. Hein. Je parierai pas grand chose sur les deux équipes de France. Quoi.
Bah on espère tromper, Stéphane. Voilà. Merci en tout cas. On te retrouve au bout du foot tout à l'heure avec LAG aux manettes le soir. Merci Stéphane.
Allez, bonne soirée à tous.
La semaine prochaine. Voilà. Juste un petit mot de fin. Merci en tout cas pour votre venue.
Hein, de rien.
Ouais. Donc voilà, il y a un petit quelque chose à dire. Si on veut faire du tir à l'arc, on vous appelle comment? Vous contacte où?
Vous avez notre micro. Vous avez notre site et puis vous avez notre téléphone.
Oui.
Alors maintenant, il y a une particularité. Quand les gens cherchent tir à l'arc, ils tombent systématiquement sur ASRTL.
Ah bah c'est bien. Hein. Merci à Thiem pour votre venue. Alexandre, tu restes là, tu bouges pas?
Je bouge pas.
Hein. Et puis Vanessa, rendez-vous la semaine prochaine.
Et bah oui, mais juste pour vous dire qu'à Marseille, le jour de l'OM-PSG, il a plu. Et puis deux jours après, il y avait aussi l'inauguration de la Marina Olympique avec Tony Stinguet et Amélie Oudéa-Castéra. Et là, il a fait beau. Je me demande si dimanche, Emmanuel Macron n'était pas venu au Vélodrome. Ouais.
Et puis tiens, on parlait de Marie-Jo Pérec. Eh bien, je sais qu'elle va faire partie de la délégation qui va partir de Marseille pour aller aux Antilles. Les noms ont été donc communiqués. Aujourd'hui, merci à toutes et à tous. Merci donc à notre trio d'attaque hein, avec notamment Jason, Leonard et Laxman. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On finit avec Urgent Foreigner. Belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Come down.
FAN.